On raconte que lorsque le Tzemar Tzedek était un jeune enfant, son grand-père, l'Admor HaZaken, le fit entrer au Cheder. L'Admor HaZaken demanda à son professeur d'enseigner au Tzemar Tzedek la première paracha du livre de Vaïkra. Lorsqu'il revint de cette étude, le Tzemar Tzedek demanda à l'Admor HaZaken pourquoi le mot Vaïkra est-il écrit avec un petit aleph. Pourquoi donc la lettre Aleph est-elle plus petite que toutes les autres lettres de ce mot? Alors l'Admor HaZaken se concentra et il répondit à son petit-fils de la manière suivante. Il lui dit qu'il existe trois dimensions dans les lettres de la Torah, les petites, les moyennes et les grandes. Par exemple, lorsqu'elle est de grande taille, la lettre Aleph est une allusion au sentiment de fierté qui naquit dans le cœur d'Adam Arishon, lorsqu'il médita au fait que le Saint béni soit-il lui-même avait formé son corps. Et Adam Arishon, il se considéra pour cela comme un être important. Et ça a provoqué par la suite sa chute, puisqu'il désobéit à Hachem au moment du péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors à l'opposé, l'Admor HaZaken expliqua à son petit-fils que quand la petite lettre, la lettre Aleph du mot Vaïkra, elle-même, elle fait allusion au fait que Moshe était lui-même d'une extrême humilité. Même s'il avait conscience de sa position, on voit que Moshe, il n'en concevait jamais de la fierté et il ne se considérait pas comme un être qui est important. Donc, la petite lettre du mot Vaïkra, elle désigne l'humilité de Moshe, comme on sait que Moshe, c'était le plus humble parmi tous les hommes. Et enfin, l'Admor HaZaken expliqua à son petit-fils que la Torah elle-même est écrite avec des lettres qui sont de taille moyenne, ni des grandes lettres, ni des petites lettres, mais des lettres de taille moyenne, afin de nous montrer le niveau que nous-mêmes nous devons atteindre, c'est le niveau de l'homme moyen, c'est-à-dire le Bénoni, comme cela est expliqué longuement dans le livre du Tanya. Ça veut dire que d'un côté, nous devons apprendre d'Adam Arishon que nous possédons des qualités, et d'un autre côté, nous devons être animés toujours par une extrême humilité. Donc ça, c'est un peu l'enseignement que le rabbi nous donne quand il dit qu'un homme, il doit avoir conscience de sa petitesse, ça c'est la petite lettre du mot Vaïkra, mais de la possibilité qu'il a de s'élever, ça c'est la grande lettre, comme on l'a dit au sujet d'Adam Arishon, c'est-à-dire avoir conscience qu'il possède Chelek Elokam Mamash, qui possède une âme divine dont l'essence est enracinée dans l'essence divine, et qui lui donne les moyens d'agir au-delà de l'intellect, au-delà de la raison, et cette âme divine qui lui permet vraiment d'exprimer un amour infini pour Dieu, qui lui permet de révéler la grandeur dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes, justement par le fait qu'il est d'abord humble. C'est par l'humilité qu'on parvient à l'essence. Comme on l'a étudié auparavant quand on a parlé de l'enseignement du Rabbi Rachab, qui a expliqué que Mima Amakim Karatia, des profondeurs je t'invoque, c'est par le sentiment de l'étroitesse, quand on sent qu'on est éloigné de Dieu, donc ça sous-entend qu'on est humble, par le fait de ressentir notre manque, qu'on va parvenir à dévoiler l'essence. On avait donné l'exemple d'un enfant qui cherche son père et qui ne désespère jamais. Alors il a ce sentiment, même s'il ne voit pas le visage de son père, il va s'attacher à suivre ses traces, à suivre ses pas. Et quand son père qui est dans le ciel, c'est-à-dire le Saint béni soit-il, il va voir cet enfant qui, bien qu'il n'a pas de dévoilement de lui-même, même qu'il recherche désespérément son père, il ne baisse pas les bras, à ce moment-là, il va ressentir un amour pour son enfant qui est double, il va ressentir une grande affection pour ses enfants, justement par le fait qu'il témoigne d'abord de cette humilité, par le fait qu'il ressente un manque, et puis par cette force qui les anime, qui font soulever leurs pieds pour agir, donc ça c'est comparable à la grande lettre, donc au sujet d'Adam Arishon, avoir conscience de ses qualités, en même temps avoir conscience de sa petitesse, et on parvient à atteindre le plus haut niveau, le niveau de l'essence. Donc ça, c'est l'enseignement que l'Admor HaZaken il a délivré au Tzemar Tzedek, et c'est en rapport avec le sujet de notre Svar Malchut. Ce qu'on peut voir transparaître dans cet enseignement de l'Admor HaZaken, C'est conforme au nom même, au prénom de l'Admorazaken, Schneor Zalman, les deux lumières. L'Admorazaken y possédait la lumière de la partie profonde de la Torah et la lumière de la partie révélée de la Torah. Donc il savait allier deux choses qui s'opposent. Il savait allier, d'une part, des sujets qui sont au-delà de ce monde, donc ça c'est vraiment l'enseignement de profond, c'est la chassidoute elle-même qui s'attache à des sujets qui sont au-delà de ce monde, mais il savait les unir avec ce monde matériel. Donc ça s'exprime par le fait qu'il est l'auteur du Shulchan Aruch, et donc il avait une maîtrise totale de la Torah dans son aspect matériel, puisque le Shulchan Aruch, il va nous apprendre à nous conduire dans ce monde matériel, mais ce qui fait la caractéristique et la particularité, la spécificité et la grandeur de l'Admor HaZaken, c'est qu'il parvient à vivre dans ce monde matériel tout en étant attaché profondément à la dimension la plus profonde de la Torah, à la révélation d'une lumière qui est au-delà de ce monde, la lumière d'Or Ein Sof, qui se révélera au moment du Mashiach. Donc le sujet le plus élevé, les sujets les plus élevés de la Torah, l'Admor HaZaken, il va parvenir à les faire descendre dans ce monde matériel. Et ça, c'est le propre de la chassidoute, c'est de faire descendre dans l'intellect. Donc l'intellect, il a un aspect qui est matériel, puisqu'il s'agit d'une force de l'âme qui s'habille dans le corps, d'unir à l'intellect des sujets qui sont abstraits, des sujets qui sont divins. Donc on le voit même dans cet enseignement qu'il va donner à un jeune enfant, à son petit-fils, au Tzemar Tzedek, quand il lui dit qu'il y existe une lettre de grande taille, la lettre Aleph qui est de grande taille, la lettre Aleph du mot Vaïkra qui est toute petite, et qu'il lui apprend à faire le lien entre les deux, la lettre Aleph Benoni, donc devenir un Benoni, et devenir surtout celui qui va savoir allier une lumière qui est limitée avec ce monde qui est limité. Il y a à ce sujet cette histoire d'un chassid qui avait amené son fils pour un entretien privé avec le rabbi de Lubavitch. Et quand le rabbi a béni l'enfant, il a béni l'enfant pour qu'il soit vraiment un chassid, pour qu'il prie avec Kavana, pour qu'il soit profond, pour qu'il soit animé par le désir de faire de ce monde matériel une demeure pour l'essence divine, c'est-à-dire attaché aux vraies valeurs de l'existence d'un juif. Donc quand il a reçu la bénédiction du rabbi et qu'il est sorti du bureau du rabbi, le père a pris son enfant et a dansé avec son fils. Et le fils a demandé alors à son père, pourquoi dans ce temps, alors que le Beth Amikdash a été détruit. Et alors le père a eu une réponse extraordinaire, puisqu'il a dit à son fils, c'est vrai que Jérusalem, le temple de Jérusalem a été détruit, mais nous-mêmes, en tant que chassidim, Jérusalem n'a pas été détruite, puisque on peut comparer le bureau du rabbi au Kodesh à Kodashim, et le rabbi lui-même, on peut le comparer à l'Arche Sainte. Donc on voit que d'après la chassidoute, d'après le sentiment d'un chassid, le rabbi lui-même est comparé à l'Arche qui contient les tables de la loi, qui sont écrites du doigt de Dieu. Et donc ça, c'est intéressant ici de s'attacher à ce point précis, à cette définition, si on peut dire, du rabbi. Comment on peut comparer le rabbi à l'Arche Sainte? Et en fait, on doit se rappeler que quand l'Arche Sainte, elle était déposée dans le Kodesh HaKodashim, elle ne prenait pas de place. Donc il y avait un miracle qui se produisait à ce moment-là, et l'Arche perdait ses mesures. Alors on voit que d'un côté, l'Arche, c'est un objet matériel, bien que ce soit l'œuvre de Dieu, bien que elle vienne d'un acte divin, on voit qu'elle demeure, malgré tout, un objet matériel. Et ça veut dire que c'est un objet qui possède des mesures. Et en même temps, on voit que quand on la dépose dans le Kodesh HaKodashim, elle perd ses mesures. Alors, c'est peut-être ici la raison pour laquelle on compare le rabbi à l'Arche, parce que justement le fait que l'Arche elle-même, c'est un objet matériel qui possède des mesures, ça s'accorde avec le fait que le rabbi, c'est lui-même un être de chair et de sang, donc à l'exemple de chaque juif, il possède des forces, les forces de son âme qui s'habillent dans son corps, sont l'intellect, les sentiments et les actions. Donc ça, c'est le premier aspect du rabbi, c'est-à-dire qu'il le définit comme un être de chair et de sang. De notre côté, quand on dit que l'Arche a perdu ses mesures quand on l'a déposée dans le Kodesh et Kodashim, alors on voit qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ce monde. On voit qu'il y a une partie de l'âme qui échappe totalement à ce monde matériel. On voit qu'il y a une partie de l'âme, et c'est précisément l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine, donc elle possède des forces qui sont tout à fait au-delà des forces de l'intellect, des sentiments qui sont dans le cœur habituel et même des actes. Donc celui qui s'attache à dévoiler cette partie de l'âme qui s'habille dans le corps, il parvient ensuite à dévoiler dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes, à les transfigurer de manière à ce que ses actions elles-mêmes, elles soient au-delà de ce monde. C'est-à-dire que c'est ce que le rabbi appelle dans le Devar Malchut, quand un juif, quand arrive le mois de Nissan, et on est assez proche du mois de Nissan, le rabbi parle d'un service divin qui est miraculeux. C'est-à-dire le fait de dévoiler dans la partie de notre âme qui s'habille dans le corps, le miracle. C'est quoi le miracle? C'est précisément le lien de notre âme avec Dieu, et ce lien-là, quand il s'exprime dans ce monde matériel, alors c'est précisément à ce moment-là qu'on va faire une demeure pour l'essence divine. C'est-à-dire que on va se dépasser totalement. C'est-à-dire que notre intellect lui-même, il va appréhender des sujets que habituellement il ne comprend pas. Un juif va ressentir des sentiments, un amour pour Dieu qui est infini, qui n'est plus limité. Et ces actes même, ils vont respirer, ils vont laisser transparaître d'une fougue, d'un service divin vraiment qui vient de très haut et qui vont vraiment exprimer le désir le plus profond qu'il y a dans chaque juif, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu. Alors si on compare le rabbi à l'arche, alors on fait évidemment allusion au fait que l'essence de l'âme du rabbi, elle est constamment dévoilée en lui-même. Donc, de la même façon que l'arche, c'est un objet matériel, et en même temps qui perd ses mesures quand elle est dans le Kodesh HaKodeshim, en même temps, on voit que le rabbi, bien qu'il vit dans un monde matériel, en fait, tout l'air qui l'entoure, les quatre coudées du rabbi, ils sont emplis, ils brillent même du Mashiach. Ils sont vraiment l'expression de la Geoula. Et donc, il arrive à unir ce qui est au-delà de ce monde avec ce monde matériel. Donc ça rejoint l'histoire qu'on a vue entre l'Admor HaZaken et le Tzemar Tzedek, quand l'Admor HaZaken explique à son petit-fils qu'on doit être un Aleph de taille moyenne, c'est-à-dire qu'on doit savoir faire le lien entre la partie la plus élevée de notre âme et la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Il y a à ce sujet un enseignement qui est important. Ce sujet-là, il s'exprime par un simple fait. Comme on sait que quand le rabbi il dit un discours hassidique, il prononce un mahamar, on sait qu'il tient comme ça avec sa main la nappe. Et on explique que c'est pour rester attaché à ce monde matériel. Parce qu'au moment où le rabbi il va donner un discours hassidique, à ce moment-là, même s'il va faire descendre des enseignements qui sont très profonds et les mettre à notre portée, et tout notre travail c'est de savoir intégrer le mahamar du rabbi, de savoir vraiment l'intégrer dans notre cerveau, puis dans notre cœur, et aussi le faire briller ensuite par nos actes. Mais on voit que le rabbi, au moment où il va dire ce discours, il a la nécessité de rester attaché à ce monde matériel. Et ça, c'est un point qui est important, puisque il y a ce principe de klot hanefesh. Quand l'âme, elle ressent tellement un amour tellement élevé pour Dieu, qu'elle est prête à quitter le corps. Et l'exemple qu'on donne, c'est la flamme d'une bougie qui tend toujours à aller vers le haut. Et l'Admor HaZaken explique que c'est parce qu'elle veut quitter sa mèche pour retrouver sa source qui est dans le ciel. Donc, de la même façon, on voit que l'âme juive, quand un juif il ressent un amour profond pour Dieu, il a le désir vraiment de se fondre en Dieu. Son âme, elle a le désir de retourner à sa source. Et là-dessus vient l'enseignement qui est important. Dieu désire qu'on fasse pour lui-même, on lui fasse une demeure ici-bas. C'est-à-dire que la demeure ici-bas, c'est notre propre corps. C'est-à-dire que l'âme, elle doit résider dans le corps. Et ça, c'est une façon aussi d'exprimer le fait qu'on doit unir une force qui est illimitée avec les limites de ce monde. On doit préserver l'âme de manière à ce qu'elle reste dans le corps. On doit servir Dieu, l'âme dans le corps. Ça, c'est un point sur lequel le rabbi revient souvent. Et ça, on peut donner l'exemple des fils d'Aaron, Nadav et Avihu, qui perdirent leur vie. Pourquoi? Parce que leur désir de s'attacher à Dieu était plus fort que la nécessité que l'âme demeure dans le corps. Alors, contrairement à leur attitude, nous devons toujours élever notre âme vers les cimes les plus élevées, mais on doit avoir conscience que l'âme ne doit jamais quitter le corps. Et bien que son désir, le désir de l'âme, c'est de quitter le corps pour s'unir à Dieu, Même si ce désir il est très fort, on ne doit jamais se mettre en danger. C'est pour ça qu'on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous élever au plus haut niveau et en même temps garder à l'esprit que cette élévation a pour but d'agir dans ce monde. D'une certaine manière, donc la lettre Aleph, quand elle est de grande taille, elle fait allusion au fait que l'âme et désir quitter le corps, et d'une certaine manière aussi, quand on voit que tous les efforts qu'on doit faire justement pour s'élever vers le haut, ça, on ne doit jamais perdre de vue que le but de cette élévation, c'est de descendre ensuite dans ce monde pour agir. C'est le principe de Ratso Veshov. C'est-à-dire que ce désir-là de l'âme, qui est de vouloir s'unir à Dieu, c'est un désir qu'on doit garder, mais on doit rester vivant. C'est ça le point que nous donne le Rabbi. Donc ça revient à cette définition qu'on a donnée de la lettre Aleph quand elle est de taille moyenne, puisqu'elle fait référence au fait, à cet équilibre, au Benoni, donc celui qui parvient vraiment à unir les plus hauts niveaux avec ce monde matériel. Alors le Rabbi Yom Tov Liman, il a expliqué dans son livre, il a expliqué chaque lettre de la Torah, de Alpha Beta, et il a expliqué que la lettre Aleph, elle fait allusion à cette voix qui sortait du ciel et qui passait entre les deux chérubins. Puisque Vaïkra, c'est lorsque Dieu il va s'adresser à Moshe Rabbeinu, et donc quand la voix de Dieu est sortie du ciel, elle passait, il est écrit qu'elle passait entre les deux chérubins qui se trouvent sur l'arche de l'Alliance. Et donc Rabbi Yom Tov Liebman va expliquer que les deux chérubins, ils sont allusionnés par les deux yud de la lettre Aleph, et le vav du Aleph, il représente à la voix de Dieu qui sortait du ciel et qui passait justement entre ces deux yud, entre les deux chérubins. Donc on voit que la forme du Aleph, telle qu'elle est expliquée par Rabbi Yom Tov Liebman, elle fait allusion justement à cette voix, à la voix de l'Éternel. Et si on associe cet enseignement avec l'idée qui est donnée par le Rabbi dans le Dvar Malchut, c'est que justement, un juif, il peut parvenir à intégrer la voix de Dieu uniquement par son attachement au Rabbi. On ne doit pas perdre de vue que Moshe, c'est l'homme le plus humble parmi les hommes, et que Dieu, il ne peut résider que dans un endroit qui lui est parfaitement soumis, et c'est par le fait qu'on va se soumettre totalement au Rabbi qu'on va pouvoir recevoir le dévoilement de la voix de Dieu qui est allusionné par la lettre Aleph, et comme l'a dit la Mora Zaken, la lettre Aleph doit être de taille moyenne. Alors par ailleurs, il y a une sikha dans le Likuté Sikhot, où le Rabbi nous enseigne que la mer s'ouvrit par le mérite d'un seul juif, qui était Narchon ben Aminadab. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce juste-là, ce tzaddik du peuple juif, il savait profondément au fond de lui-même que le Saint béni soit-il a libéré ses enfants de l'Égypte afin de les conduire au pied du mont Sinaï et de leur donner la Torah. Donc, il avait ce sentiment en lui, et c'est pour ça que quand il s'est trouvé face à la mer, il n'a eu aucun mal à sauter le premier dans la mer, parce qu'il savait que la mer, elle s'interposait devant lui, et elle le séparait du don de la Torah. Mais il savait que Dieu voulait donner la Torah au peuple juif, et c'est pour cette raison-là qu'il n'a pas du tout eu peur de sauter dans la mer. Et alors, de la même façon, un juif, il doit savoir que le projet divin, c'est le dévoilement du Machiar, donc tout ce qui s'oppose au dévoilement du Machiar, pour lui, ça doit être considéré de la même façon que Narchon ben Aminadab va considérer la mer qui était devant lui. C'est-à-dire qu'il va se jeter dans la mer parce que, justement, ce qui fait soulever ses pieds à ce moment-là, c'est la certitude, la émouna, le fait qu'il sait profondément et qu'il ressent profondément qu'il y a quelque chose qui est derrière cela. Et de la même façon, quand on voit que toutes les épreuves et tous les obstacles qui nous séparent de la venue du Machiar, on doit les considérer de cette manière-là. Et de quelle manière on peut justement agir et avoir un regard sur ces obstacles qui ne nous apeurent pas, c'est précisément lorsqu'on se trouve dans les quatre coudées du Rabbi. À partir du moment où on est dans les quatre coudées du Rabbi, on est animé par le désir du dévoilement de Dieu, le désir du dévoilement du Machiar, et alors tous les obstacles s'évanouissent devant nous. Dans le Dvar Malchut, sur notre paracha, le Rabbi va rapporter le Midrash Rabba, selon lequel le nom Narchon, ça vient de Narchol, qui désigne les grandes vagues de la mer. Ces grandes vagues de la mer qui étaient devant lui lorsque Nachshon il a vu justement la mer devant lui, ces grandes vagues de la mer qui ne l'ont absolument pas impressionné. Et c'est justement ça la signification de son nom. C'est lié avec la signification de son nom. C'est ce Midrash, il nous révèle que Nachshon, il avança dans la mer jusqu'à ce que le niveau de l'eau atteint celui de ses yeux. Et malgré cela, cela ne l'a pas empêché de continuer à marcher. Et c'est à ce moment-là que la mer s'est ouvrie devant lui. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de cela? On comprend de cela que lorsqu'un juif dépasse le niveau de l'intellect, comme l'eau de la mer dépassa le niveau de son nez et atteint celui de ses yeux, alors l'Éternel, il ouvre la mer devant lui. Et ça, c'est précisément ce sentiment-là qui doit nous animer, c'est-à-dire on doit absolument pas être impressionné par les grandes vagues de la mer qui nous séparent de la venue du Mashiach, et on doit se jeter dans la mer justement avec cette force que nous donne le Rabbi, puisque le Rabbi, il insiste dans le Devar Malchut et il explique que chaque juif possède une étincelle de Moshe Rabbeinu, chaque juif possède une étincelle du Rabbi, et quand il éveille cette étincelle, à l'exemple de quelqu'un qui va souffler sur une braise, alors il y a un feu qui va jaillir du bois, et donc ce feu-là, c'est cet amour infini qu'un juif y ressent pour Dieu, et qui porte ses ailes, justement qui le pousse à agir, à se jeter sans être impressionné par les grandes vagues de la mer, pour faire tout ce qui est en son pouvoir pour provoquer le dévoilement du Mashiach avec l'aide de Dieu, dès à présent. Shabbat Shalom, Omevorach.